Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Nous sommes aujourd'hui lundi 2 septembre 2024 et vous comprenez que c'est le premier lundi alors de ce mois de septembre. Il sonne 11h passées de quelques instants sur La Nouvelle Génération et vous comprenez aussi que c'est le premier numéro pour le compte alors de cette semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Vitok Betomega était à la mise en onde. Jérôme Dakoucha sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lesso au micro. Et comme toujours, vous nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez ce privilège alors de nous suivre également partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat de l'actualité d'ici et d'ailleurs, et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au lundi, Uriel Nyang est là. Uriel, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices, auditeurs de Canal FM.
Bien commencé le mois.
Le mois, oui. La semaine, oui. Nous rendons grâce à Dieu et nous implorons sa bénédiction, ses grâces, sa protection.
Effectivement, c'est l'essentiel. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous fait et également pour cette grâce qu'il nous donne. Toujours, Jacques Dakouti ne nous dira pas le contraire.
Bien sûr, Pascal. Bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Fructueux mois de septembre. Et vous savez, c'est le mois où la plupart des parents, même s'ils ont des cheveux sur leur tête, comme quelqu'un qui est devant moi, souvent les cheveux là disparaissent.
Et c'est la barbe. Tu ne veux pas appeler son nom, hein?
Oui, c'est la barbe qui reste parce que c'est des problèmes pour la rentrée scolaire. Nous prions le grand Dieu pour que vraiment les personnes de bonne volonté puissent aider les orphelins, les veuves à faire une bonne rentrée. C'est le lieu d'inviter les uns les autres à cette solidarité pour ces familles et également pour ces enfants qui sont là pour la rentrée scolaire. Souhaiter également une prompte guérison à tous ceux qui sont malades, qui sont en train de nous écouter actuellement. Et Pascal, faire cette interpellation, je ne sais pas si c'est Mme Aziablé qui est chargée de l'aménagement du territoire ou bien c'est...
Non, c'est plutôt Amadou. Le ministre Gomadou.
Gomadou, oui. Voilà. Invitez le ministre Gomado, quand vous allez au niveau du marché de Gwansimé, pour tourner, pour aller vers le marché, il y a un grand trou là-bas. Sincèrement, invitez notre ministre.
C'est trou fait plus de 3 ans.
Vous voyez, c'est pas bien. Ce qui m'a choqué, sur ce trou-là, je crois que c'est une première fois pour la dame-là d'aller vers le marché de Gwansimé, je crois. Peut-être que je peux me tromper. Elle avait son bébé attaché sur le dos et la moto. Elle allait tomber dans ce trou et la moto, l'enfant allait projeter quelque part. Nul n'était la vigilance de ce chauffeur, il allait marcher sur la tête de ce petit-là comme ça ce matin. Franchement, je voudrais inviter, si c'est monsieur Gomadou, c'est ça,
qui est chargé justement de l'aménagement du territoire.
Je ne sais pas si c'est le maire qui doit faire ça, je ne sais pas. Qui doit arranger ce côté-là? Je sais que ce côté-là, ça doit être le maire Kamal Ayaï, je crois.
Je pense bien. Si je me... Mais Gwansimé, je pense que c'est Goff 4, hein, Gwansimé.
C'est Kamal, non?
Non, Gwansimé, si c'est Goff 4, c'est Jean-Pierre Fabre.
Ah, ok, le maire Jean-Pierre
Fabre. On peut s'adresser au ministre concerné, on peut s'adresser au ministre concerné. Tout à fait, on peut s'adresser au ministre. C'est à ce ministre de savoir qui déléguer pour aller réparer les choses. Juste. Mais la dame dont vous parlez, elle est au niveau de l'assainissement, elle n'est pas épargnée aussi. Donc, tous ceux qui sont concernés, c'est tout là, franchement. C'est pas là que nous passons pour venir à Canada.
Tout à fait.
C'est un trou et il se situe au niveau du carrefour.
Justement.
Quand tu viens de. Comment l'appelle-t-on Atikoumé, tu rentres par là, le trou est à ta droite. Donc celui qui vient du boulevard des armées ne sait pas que tu es en train de feinter le trou.
C'est ça.
Et c'est très dangereux. Et il dure des années. Bon, on ne sait pas. Il faut un drame avant qu'on ne le ferme. On ne sait pas, on ne va pas attendre les dégâts avant.
Tout à fait, on ne va pas attendre les dégâts.
Il a failli avoir un drame ce matin. Oui. Parce que quand le petit est tombé, heureusement que le chauffeur était vigilant. Sinon, le chauffeur allait marcher sur la tête de cet enfant-là ce matin comme ça. Vous voyez. Donc, comme il l'a dit, je crois qu'il y a le ministre Gomado, il y a Aziablé, il y a Fabre. Donc, il faudrait vraiment que quelqu'un se décide pour arranger cette situation.
D'accord. Je pense que cette interpellation, le message est passé. Alors, Gosson Ketomania, bonjour.
Bonjour, Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Hormis ce qui ne va pas, le reste, on rend grâce à Dieu. Du moment que, quelle que soit la situation sociale de l'humain, c'est le même air que nous tous nous respirons.
Voilà.
Que tu sois riche comme Crésus ou alors pauvre comme le président des JPTE, c'est le même air.
Alors, redonne-nous la définition, puisqu'il y a quelqu'un qui posait la question hors antenne tout de suite.
Pauvre, très endetté. Vu que nous sommes dans un pays pauvre, très endetté, je trouve normal qu'il y ait une association de qui porte ce nom-là.
Mais entre-temps, est-ce que nous n'avons pas quitté cette étape, Uriel?
Il faut juste vous intéresser à l'endettement.
Si l'association a reçu le récépissé de la part du ministre de l'administration territoriale, ça veut dire qu'il y a des journalistes très pauvres, très endettés. Donc, ça veut dire que c'est une réalité. Si on ne leur a pas retiré le récépissé, s'ils ont ces récépissés jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que la réalité est là.
Ce qui est sûr, je ne souhaite pas faire partie de cette association. Alors, chers confrères, nous allons, tel que nous savons bien le faire, avec nos débats ici. C'est un débat citoyen que nous animons. Et déjà, à partir de midi, nous donnons aussi la parole à nos concitoyens de participer à ce débat sur les deux numéros de Canal FM 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Et à travers ces deux numéros, vous pouvez nous contacter déjà à partir de midi pour participer aussi au débat avec nous. Alors, nous démarrons cette émission avec ce sujet. Uriel, vous savez que depuis un temps, il y a les fêtes traditionnelles, alors qui continuent alors dans pratiquement les grandes localités de notre pays. Le samedi dernier, c'était à les natifs alors de Vaughan, c'est-à-dire à Dinoukouzan. Ils ont célébré leurs fêtes traditionnelles. Et justement, à Dinoukou, c'est les produits vivriers, bien sûr, qui ont été célébrés. Et là, ça veut dire que finalement, nous revenons justement à la source en tant que Togolais pour célébrer un certain nombre alors d'identités culturelles.
En réalité, c'est là la manifestation de notre identité culturelle. Sinon, la fête de Noël, la fête du Nouvel An, les fêtes de Tabaski, Ramadan, ce sont des fêtes importées. Ce qui se fait actuellement, les fêtes que vous venez d'énumérer, c'est là notre propre tradition en réalité. Donc, il va falloir qu'on reste, surtout ce qui est essentiel, c'est de rester dans le cadre de la célébration ou de la révélation de nos valeurs identitaires, de nos valeurs culturelles. C'est très important. Pour le reste, bon, ça va de soi parce que aujourd'hui il n'y a pas une société au Togo qui ne s'y connaît pas. Il n'y a pas une société au Togo à qui vous pouvez poser la question, quelle est ton identité culturelle, qu'est-ce qu'on célèbre chez toi comme fête traditionnelle, et la société reste incapable de vous répondre. Non, nous avons tous des valeurs culturelles. Donc, c'est une très bonne chose. Qu'au moment venu, les communautés, les fils et filles de dites communautés se retrouvent ensemble pour communier ensemble. Ils oublient même, un tant soit peu, leurs divergences politiques, leurs divergences de tout genre, et ils communient ensemble sur leurs valeurs culturelles. Donc la semaine, le samedi passé, c'est ce qu'on a observé au niveau de l'AV, si je crois bien.
La maison.
Oui. Donc ça va continuer, ça montera à Bassa, on ira dans le Grand Nord à Dapaon. En décembre, on va descendre dans la Bina pour célébrer Singarng aussi. Ça va tourner jusqu'à revenir au mois de juillet pour la célébration des Evala. Donc moi, je ne maîtrise pas tellement ces fêtes au niveau du Sud, mais je trouve quand même que c'est important, plus qu'important même, de les préserver, parce que l'avenir de nos enfants en dépend. Nos enfants ne vont pas naître européens, américains ou asiatiques. Ils doivent naître d'abord ce que nous sommes, avant, s'ils veulent s'approprier d'autres formes de valeurs, et ça c'est encore très intéressant, qu'ils le fassent, ça c'est bien. Mais que nos enfants ne naissent pas français, qu'ils ne naissent pas malgaches, qu'ils ne naissent pas japonais, qu'ils ne naissent pas chinois, qu'ils naissent d'abord togolais. C'est pour ça même que je pense que les autorités font de leur mieux pour accompagner la célébration de ces fêtes. Ce n'est pas pour aller conquérir l'électorat, ni pour, à mon avis, je pense que, qu'elles ont compris qu'il est important que chaque société togolaise, depuis son origine, arrive à maintenir et garder sa vraie identité avant de chercher à conquérir d'autres valeurs, d'autres formes de valeurs culturelles.
Jacques, alors, c'est vrai que ces derniers temps, avec cette fête traditionnelle, on retrouve plus les autorités dans ces fêtes traditionnelles. On se souvient, il y a déjà le samedi dernier avec Adinou Kouzan, c'est Madame le Premier ministre qui était là avec, puisqu'elle est native même d'ailleurs de la localité, avec une grande partie même d'ailleurs des membres du gouvernement. Et aussi à Vézan, c'est plutôt le président de l'Assemblée nationale qui était là aussi, avec d'autres ministres aussi. Alors, on comprend tout simplement que les fêtes traditionnelles tiennent à cœur à nos autorités.
Vous avez oublié également Tado avec...
Tout à fait, il y a Tado aussi.
Voilà, Tobé Agni. Mm. Vous savez, j'ai suivi un peu le discours du ministre de l'enseignement supérieur. Je voudrais parler de Malik Natchaba. Il a fait un discours que, franchement, j'ai beaucoup aimé. Si il peut vous traduire dans les faits ce discours, ce serait vraiment une très bonne chose. Parce qu'il a développé effectivement la valeur culturelle de cette fête. Et il est allé jusqu'à dire que ce serait vraiment que le gouvernement est en train de réfléchir pour voir d'abord comment construire un mausolée au niveau de Tado pour vraiment se rappeler les générations présentes et futures ce que c'est que effectivement Togbe Agni. Je crois que c'est une bonne chose. Hormis effectivement le côté festif dont on venait tout à l'heure de parler, il faudrait aujourd'hui que les générations présentes et futures puissent comprendre le sens de ces fêtes-là. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le côté festif seulement que nous voyons. Si, par exemple, au cours de la semaine, on peut avoir un temps pour peut-être des forats, pour expliquer aux populations ce que c'est que vraiment ces fêtes, les gens vont comprendre. Mais ce que nous voyons, seulement c'est le samedi, lors de l'apothéose où on voit les gens se parer de leurs beaux habits.
Et des danses folkloriques.
Voilà, et puis, on se rassemble, les discours après, on se disperse. Quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on garde après la suite? J'ai suivi également le ministre Adjouvi qui disait que...
Et là, c'est dans la veille.
Dans la veille.
À Vézan.
Voilà, il disait également que il faudrait aujourd'hui que, à l'occasion de ces fêtes-là, que les cadres puissent réfléchir pour voir quel sera effectivement le relais qu'il faut faire avec les élèves, les étudiants qui sont dans ces contrées, dans ces régions, pour pouvoir les promouvoir, les soutenir, pour qu'ils soient effectivement ceux qui peuvent être les dirigeants de demain. Je crois que c'est des choses comme ça, il faut encourager. Mais aller seulement au côté festif, on se disperse, je crois que ça ne donne absolument rien. Et l'autre aspect, Pascal, ce que vous ne devez pas ignorer également, au cours de ces fêtes également traditionnelles, il faut voir derrière ces fêtes-là également les sponsors. C'est-à-dire qu'il y en a qui mettent de l'argent. Et qui dit mettre de l'argent, également pas de la visibilité de ceux qui ont mis de l'argent au cours de ces fêtes. Et ce que nous assistons, ce que nous voyons aujourd'hui c'est la course, effectivement, aux sponsors. Parce que vous allez voir, la plupart de ces fêtes, si vous jetez un coup d'œil sur les pancartes souvent qu'on essaie de mettre sur le terrain, si ce n'est pas la Lonato, si ce n'est pas Togocom, si ce n'est pas Move, et bon, vous voyez, et le port autonome de Lomé, c'est-à-dire que c'est une course. Les gens veulent effectivement qu'on puisse les sponsoriser.
Ça fait aussi leur visibilité.
Voilà. Mais au-delà de ça, l'argent que, par exemple, ces sociétés-là mettent au cours de ces fêtes-là, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Également, il faut voir ça. Entre-temps, on avait évoqué dans ce studio, je disais que ça serait bon si on peut, par exemple, récolter ces sous, essayer de faire peut-être des forages arranger peut-être les centres de santé dans les contrées. Je crois que c'est elle qui n'était pas d'accord avec moi, qui disait que non, ce n'est pas la responsabilité de ces fêtes traditionnelles de réhabiliter les centres de santé et d'essayer de faire des forages dans ces villages. Mais je crois que c'est important. Bon, l'argent là que, par exemple, les sponsors donnent, on fait quoi avec?
Est-ce que ce fonds-là ne sert pas à organiser, même d'ailleurs, ces festivités?
Mais c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi vous allez voir que aujourd'hui c'est une course dans l'organisation de ces fêtes traditionnelles. Hormis peut-être, quand vous prenez Kpekpe à Nero, ils sont à leur
361e édition.
Quand vous allez, par exemple, aujourd'hui à Nero, dites-moi, est-ce qu'il y a un mausolée où, depuis, ça fait 300 combien?
61.
Voilà. Les pierres là sont où? Est-ce qu'il y a un mausolée où on garde les pierres là-bas, ou bien quand on les prend, on les jette dans la mer après? Donc, vous voyez, c'est des choses qu'il faut effectivement, c'est une réflexion. Les pierres là qu'ils essaient de récolter, essayez de construire peut-être un mausolée, vous les mettez dedans. Et à ceux qui ne l'ont jamais vu, même si on sait que de temps en temps, les pierres là changent de couleur, mais je crois qu'il faudrait quand même essayer de voir comment pérenniser ces acquis-là par rapport à ces fêtes.
D'accord. Oui, mais Gosson Kétomanian, c'est vrai que j'accorde aussi un aspect de la chose maintenant. Il est dit que c'est la célébration de l'identité culturelle, mais ce qui est plus mis en avant dans ces fêtes traditionnelles, c'est plutôt le côté festif, c'est plutôt le folklore que nous retrouvons à l'apothéose. Ça veut dire que l'essentiel même est délaissé, n'est-ce pas?
Bien, il n'a pas menti. Pascal, nous sommes en bientôt la fin des vacances.
Tout à fait.
Et donc, la rentrée, c'est le 16 septembre prochain.
Voilà.
Si je ne me trompe pas.
Non, mais le ministre l'a confirmé ici.
Exactement, deux semaines. Une fête, à mon entendement, pour qu'elle soit belle, c'est quand tous les fêtards s'y retrouvent. Aujourd'hui, par rapport à il y a 10-15 ans, le bol de maïs est à combien? Le bol de maïs est à combien? À quelques semaines, quelques jours de la rentrée. Et c'est nous, pères de famille, les parents, qui voudraient participer à cette fête-là, ils auront obligatoirement, dans un coin de leur tête, la rentrée qui va venir. Comment payer la fourniture? Comment habiller les enfants? Donc, c'est des réalités. Malheureusement, il se trouve que la plupart des fêtes se passent pendant les vacances. Donc, je pense qu'avec le temps, on doit aller plutôt vers du symbolisme. Ne pas tenir coûte que coûte à fêter pour fêter. Non. Tout à l'heure, Jacques évoquait le sujet sur l'après-fête. On parle, quand on prend les PEP par exemple, on en est à 300 et quelques éditions. Où sont les pierres qui ont été choisies?
Bien sûrement que les pierres vont exister.
Où? Tu en sais quoi, Pascal? Tu es là pour nous modérer, hein, pas pour jouer l'avocat du diable.
Non, mais c'est pas que je joue l'avocat du diable. Mais ce qui est sûr, on ne peut pas quand même prendre ces pierres et les jeter par après.
Mais on peut les jeter là où on les a pris.
Ah, d'accord.
Là où on les a prises.
Voilà.
Et finalement, on se demande à quoi ça sert. Puisque, habituellement, quand on prend ce milieu, on dit qu'en période de vent, après le choix de la pierre, on finit par arrêter le vent. Mais finalement, tout le monde a compris que on attend que le vent même s'arrête et après on sort pour dire qu'on l'a arrêté.
D'accord.
Sinon, quand il s'assouffle, on doit pouvoir y mettre fin. Mais c'est pour dire que, je le répète, fêter est un fait. Mais devant certaines réalités, on doit penser plus a du symbolisme.
D'accord.
Mais s'il faut se retrouver et juste après se séparer pour ne rien en garder, ça vaut pas la
peine. Non, rapidement réagir sur trois aspects. Je pense que, je commence par le dernier, par rapport aux pierres sacrées, je pense que ce n'est pas sur ce plateau qu'on saura là-haut la tradition garde ses pierres, parce que la pierre sera gardée selon le principe de cette tradition.
Tout à fait.
Qu'elle soit rejetée dans la mer, qu'elle soit, ça veut dire que c'est selon le principe. Donc, et ils ont aussi le droit de garder secret si c'est la tradition qui le dit. Je retourne aussi vers Jacques par rapport à ces sociétés qui sponsorisent les différentes fêtes traditionnelles. Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, RSE. Vous savez, ces entreprises, elles font des choses énormes au sein des sociétés, même on y les sociétés où les entreprises ne sont pas installées. Elles réalisent de grandes choses. On construit les écoles, on réhabilite les centres de santé, on construit aussi les centres communautaires, beaucoup de choses sont faites. Maintenant, si des sociétés pareilles ont des types d'organisation, d'événements, alors c'est normal qu'on invite ces sociétés-là pour, par ces entreprises, je veux dire, pour leur meilleure visibilité. Ça, c'est tout à fait normal. Et puis, il n'y a pas que lors des fêtes traditionnelles que les entreprises sont sollicitées. Même quand les journalistes ont des activités, ils sollicitent aussi les organisations patronales des journalistes. Ils sollicitent aussi ces entreprises-là. Pour finir, par rapport à la rentrée, j'ai constaté qu'à chaque approche de la rentrée, tout le monde sollicite un appui, je ne sais pas en faveur de qui. C'est à qui vous voulez qu'on achète les cahiers, les craies, les bics? C'est à quel enfant, quel type d'enfant? Aux orphelinats ou bien à qui? Je ne comprends pas. Tout le monde dit les bonnes volontés n'ont qu'à se manifester. C'est pour acheter les fournitures, le à qui? Je voudrais comprendre.
Mais justement, il y a souvent les orphelins.
Il y a des orphelinats qui s'en chargent. Donc, si tu veux offrir un don, tu n'as pas besoin de le chanter sur la radio. Tu vas offrir ton don à l'orphelinat. Les responsables vont s'en charger. Est-ce qu'au-delà de ça, les gens voudraient que ceux qui ont les moyens ou bien les bonnes volontés achètent des tas de matériel didactique pour aller déposer dans les établissements pour qu'on distribue aux élèves? Je ne comprends pas. La rentrée, c'est la rentrée, c'est une chose. La rentrée scolaire n'est pas un événement supérieur à d'autres. J'aurais souhaité même qu'on fasse la promotion d'appui à ceux qui sont couchés sur les lits des hôpitaux que de demander aux gens. C'est mon avis, hein, parce que moi, à chaque fois quand je l'entends, c'est comme si, bon, tout le monde peut faire des enfants à l'approche de la rentrée, on va inviter les bonnes volontés pour les soutenir, ils vont continuer.
Je ne comprends pas. Ce serait une fuite de responsabilité des parents. Je te comprends. Alors, nous sommes rejoints par le fils de Couvé, Didier Assoba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour à mes aînés en studio.
Mais ça fait 2 jours, hein?
Oui, évidemment, 2 jours, un petit déplacement, mais là je suis là.
Dieu merci, et tu es revenu sain et sauf. Alors oui, mais nous sommes en train de discuter alors de ces fêtes traditionnelles, et on sait que déjà le samedi, il y a des fêtes traditionnelles, l'apothéose même d'ailleurs de ces fêtes traditionnelles qui a été également exécutée hein, sur toute l'étendue du territoire national. Nous étions à Vaugan, et aussi dans la V où il y avait à Vézan et à Vaugan, c'est plutôt à Dinoukouzan. Alors finalement, tel que l'évoquait tout de suite Jacques, est-ce que l'idée première de ces fêtes-là, qui constituent peut-être alors célébrer nos identités culturelles, est-ce que vous avez l'impression que l'objectif est souvent atteint?
Non, tu connais ma position sur ce sujet de fête traditionnelle. Elle n'a pas changé. Et quelqu'un dira, après les fêtes, ça redevient quoi? Je t'ai déjà dit il y a 2 lundis dans ce studio que l'exemple que je maîtrise et qui est palpable, qui peut être transposé à l'échelle nationale, c'est Roubaixan, par exemple, qui a eu lieu il y a 2 samedis exactement. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je t'ai dit la dernière fois dans ce studio que chez nous, dans le Yoto, on ne s'entend sur pratiquement rien. Mais quand on parle de Roubaixan, les gens font semblant d'être ensemble. Une fois que la fête finit le samedi, lundi d'après, tout le monde se divise. Alors qu'on venait de faire le semblant de l'unité de la préfecture, on a fait bien de chanter les valeurs culturelles et cultuelles.
Mais est-ce que votre cas n'est pas un cas isolé?
Non, c'est la même chose un peu partout. Hier, j'écoutais un homme politique parler par exemple d'Adinoukouzan. Moi, je ne suis pas de Vaud. Je suis très proche de vous, mais ce qu'il disait n'est pas très différent de ce que je viens de te décrire. Quand vous allez parler de ce qui se passe dans la ville, ça va être la même chose. La préfète, avant et après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça apporte à nos préfectures, aux ressortissants de ces préfectures? C'est pour ça que l'idée, naturellement, de rassemblement, d'unité de ces préfectures, vous allez voir dans le discours des politiques, ben ça ne manque pas parce que Les politiques savent généralement que, après avoir fait le travail, ils viennent faire juste. Eux-mêmes, ils font le travail derrière, ils viennent faire le service après-vente. C'est-à-dire qu'ils font tout pour vous diviser politiquement. Et lorsque ces fêtes traditionnelles arrivent, ils font tout pour vous appeler à l'unité des fils et filles de, des fils et filles de. Et ça s'arrête là. Après à Dinoukouza, à Vezan, et voilà, et Pékbé, tout ça. Quand on vient à Lomé le lundi, qu'est-ce que les gens font? Les gens reprennent chacun son manteau et chacun reprend son arme et on commence à se combattre encore les uns contre les autres pour que finalement, dans ces localités, dans ces préfectures-là, il n'y ait véritablement aucun projet de développement viable, aucune initiative qui fait naturellement évoluer ces préfectures. Et c'est là que moi je dis, si on veut véritablement rendre service à ces localités, il faut au-delà du folklore et de tout ce qu'il y a, que peut-être on puisse trouver un mécanisme qui permet qu'autour de chaque fête traditionnelle à travers le pays, on puisse développer peut-être un projet économique ou d'autres initiatives qui naturellement tirent vers le haut ces préfectures-là, plutôt que d'être seulement dans les histoires de célébration qui permet juste aux gens d'être ensemble une journée, juste le lendemain.
D'accord. Alors, pour les célébrations ou les fêtes, il faut de l'électricité. L'électricité, alors, nous avons de mauvais jours devant nous par rapport à l'électricité, puisque la société nous annonce quand même qu'il y aura des perturbations en ce qui concerne alors l'électricité. Et c'est le journal Togo Matin qui nous informe, bien sûr, ce matin. Et Togo Matin qui écrit, courant électrique, la société annonce des perturbations jusqu'au 14 septembre. Alors, Jacques, quand on prend ces jours sombres que nous avons connus avec la coupure intempestive alors de l'électricité, ça veut dire que les jours devant nous seront encore comme ces derniers que nous avions connus.
Vous savez, Pascal, quand vous prenez aujourd'hui, évoquons la pluviométrie même dans le pays, pour ceux qui ont encore fait le tour un peu au nord, vous le diront, c'est un peu compliqué. Je crois que c'était dans le village de Uriel où les musulmans se sont rassemblés pour prier, non? Pour demander la pluie.
À Pagouda?
Oui, à Pagouda.
Partout, donc, ils se sont rassemblés, hein, c'est une bonne chose.
Voilà, c'est pour vous. Donc finalement, c'est pour vous dire que c'est un phénomène un peu difficile. Ajouter à ça encore les coupures d'électricité, vous voyez que finalement, ce sera compliqué cette année. Entre-temps, on nous avait évoqué également la question du non-paiement que le Togo doit au Nigeria et que le Nigeria menaçait de couper également l'électricité au Togo, au Bénin et au Niger, je crois. Bon, depuis là, la société n'a pas communiqué sur l'appel du Nigeria. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Et ce qui est intéressant quand même, il faut reconnaître à la société que, moi je l'ai dit tout le temps, au moins, la société communique. Lorsqu'il y a, par exemple, ces problèmes de coupure, la société communique de temps en temps pour nous dire, ah, attention, tel moment, nous allons couper. Et tel moment, il y a ci, il y a ça.
Il y a eu même entre-temps un plan de rationnement.
Rationnement, justement. Je crois que pour ça, il faut quand même féliciter la société pour cette transparence au niveau de la communication de ces coupures d'électricité. Et l'autre aspect aujourd'hui, maintenant, ce qui est intéressant, vous voyez que aujourd'hui le ministère de l'Énergie, je l'ai dit, le ministre qui est là aujourd'hui, je ne le connais pas, mais je sais que celui qui est M. Kakati, lui, l'a fait quand même un peu la suite. Il a fait, c'est le directeur de la suite, et après il est parti. Je crois que c'est des gens quand même qui pourront nous aider le Togo à rationner peut-être le peu d'électricité que nous avons entre le Bénin, le Nigeria, le Ghana et autres, pour pouvoir satisfaire nos compatriotes. Donc je crois que aujourd'hui, c'est vrai, le planning est déjà donné. Il faudrait aujourd'hui que les Togolais nous puissions effectivement nous accommoder par rapport à ce planning. Je sais que ce serait un peu difficile pour nous, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous voyez déjà la pluviométrie qui crée aujourd'hui des problèmes au niveau des récoltes, ça serait un peu compliqué. Et le peu d'électricité que nous avons pour pouvoir également vendre nos jus, nos poulets congelés, on serait obligé encore de couper l'électricité. Ça va encore nous fragiliser. Je crois qu'il faudrait que les uns et les autres puissent s'armer et que le Togo puisse communiquer. Parce qu'en ce temps, vous vous rappelez, la ministre qui est partie, je voulais parler de Aziablé,
voilà,
qui avait dit que les problèmes d'électricité derrière nous, parce qu'elle avait parlé du gaz que le Togo a finalement trouvé et qu'on n'allait plus couper d'électricité. Elle quitte Et Volant dit encore qu'il y a un problème. Je crois qu'il faudrait qu'on...
Mais elle n'a pas quitté avant qu'on ne retrouve même le problème. Vous vous souvenez?
Oui, justement. J'étais étonné qu'elle puisse faire cette annonce, que les soucis là sont derrière nous et qu'on nous communique encore ce ratio de pouvoir encore coupé.
D'accord. Alors, Uriel, c'est vrai que l'annonce nous est donnée que ces perturbations seront dues à des travaux alors de maintenance sur les équipements de la centrale Kekeli Efficient Power et également l'une des fournisseurs, bien sûr, hein, ou des principales installations alors de promotion d'énergie du pays. Ce qui veut dire que, allez, pour cette fois-ci, on sait également ce qui va constituer ou ce qui est à la base alors des perturbations.
Non, pour être objectif, dans la pratique, je pense que c'est une bonne chose de nous prévenir. C'est ce qu'on n'avait pas reçu auparavant et nous avons subi. Ça, il faut quand même, je ne connais personne à la CT, je ne connais personne au ministère de l'énergie et des mines et tout ça, mais je pense quand même que ça a été professionnel, le fait de nous prévenir, hein, de nous informer d'avance qu'au cours de telle période, il y aura des travaux qui pourraient entraîner des perturbations sur le réseau électrique. Ça, c'est professionnel.
Et aussi
ça,
de donner les dispositions à prendre.
Justement, ça, on ne peut pas demander mieux que ça. Il y a rien à faire. Je vous informe qu'ailleurs, c'est pire. Le délestage est pire. On ne le souhaite pas au Togo parce que nous sommes un pays de 56 600 km². On ne peut pas imaginer pourquoi nous n'avons pas suffisamment de l'énergie électrique. Donc, pour le passé, vous avez parlé du rationnement. Je pense que c'est parce que nous avions crié, tous les Togolais ont trop crié qu'ils ont informé sur les dispositions prises pour améliorer la fourniture du courant électrique. Aujourd'hui, je constate aussi... Et avec petit bonheur quand même qu'on a un peu plus ou moins suffisamment de l'énergie électrique, même s'il y a des coupures, ces coupures-là ne durent pas. Bon, pour les travaux annoncés, je pense que c'est quelque chose à peine 2 semaines, 15 jours, quelque chose comme ça.
Oui, pratiquement 2 semaines.
Et donc, ils ne vont pas quand même se mettre à couper le courant à tout le monde, à tout le Togo durant 20 heures ou 23 heures. Peut-être c'est une autre forme de rationnement. Mais je reprécise que quand même c'est professionnel de prévenir les usagers de l'énergie électrique qu'il y aura des perturbations. Ça, il n'y a pas à contredire.
Alors, Gasson, déjà pour cette fois-ci, nous connaissons bien sûr la cause alors même d'ailleurs des perturbations, mais est-ce qu'aujourd'hui il ne faille pas aller vers d'autres formes alors de sources d'énergie?
Oui, Pascal, tout à l'heure, Jacques parlait de la pluviométrie au nord. Je crois qu'il y a même une information qui prévient les riverains du fleuve Mono.
Non, les usagers de la nationale 17, RN17.
Oui.
Oui.
Que, en fait, on a parlé de crue du fleuve Mono, qui Mono pourrait affecter ceux qui sont en aval.
Ah, ok.
Voilà. Oh, oui. C'est pour dire quoi? Sur ce fleuve Mono, il y a quelle forme de. Quelle énergie en avons-nous tiré à ce jour? Que si j'ai bonne mémoire, on nous a fait croire au projet du barrage Adjalala qui devait lier le Togo et le Bénin. Le Bénin aurait même donné sa quote-part de 110 ou 115 millions de dollars. Puis du Togo, à ce jour, ce projet semble passer par perte et profit. Et là, l'eau coule, il y a la possibilité d'en tirer de l'énergie, mais on ne le fait pas. Pour ce qui est de la communication, moi je parlerai plutôt de communication à minima.
Comment ça? Ce n'est pas total?
C'est d'abord ce qu'on veut nous faire croire comme raison de la coupure à venir.
Vous pensez que la réalité est ailleurs?
Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que le verre est à moitié plein. Tu me fais dire qu'il est à moitié vide. Puisque il y a l'information selon laquelle le Nigeria menace et le Bénin et notre pays, et peut-être un troisième.
Officiel?
Très officiel. Sur ce plan, l'idéal, même si c'est pas officiel, il sied que l'autorité fasse une sortie pour rassurer. Quand on se rappelle qu'au temps de Mila Aziablé, on nous a fait croire que ce n'est lié
à aucune forme d'endettement de notre pays envers le fournisseur. Mais voilà que l'information revient. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rassurer? Si ce n'est de communiquer sur le sujet. Autrement, chacun libre de supputer. Voilà.
D'accord. Disais, je reviens sur cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la fourniture du courant électrique, est-ce qu'on n'a pas besoin d'aller vers d'autres formes alors de sources d'énergie?
Après, c'est la question que tout le monde se pose et on se demande pourquoi ça dure. Et on n'arrive généralement pas à essayer de trouver une solution pour être... pour une sécurité, certains diront une autosuffisance en matière d'énergie électrique, surtout que notre pays, c'est qu'en 6000 et quelques kilomètres carrés, sous réserve, hein, certains diront que c'est plus, certains diront que c'est moins. Donc, de toute façon, on n'est pas un si grand pays que ça. Et on a des initiatives, par le barrage de Nangueto, il évoquait tantôt le barrage d'Adjara, le projet du barrage d'Adjarala, finalement, personne n'en parle. Et aujourd'hui, il y a le Nigeria, naturellement, qui nous fournit en énergie, le Ghana, plus d'autres solutions qu'on a très coûteuses ici, hein, qu'on a d'autres initiatives très coûteuses, les Kekeli, les Contour Global, des initiatives assez coûteuses qui, naturellement, empêchent d'autres investissements grâce aux bénéfices naturellement que pourrait faire la CET. Alors il évoquait tout à l'heure, on a l'eau, on a le fleuve Mono qui naturellement a beaucoup d'eau, on a le soleil également ici. Mais les initiatives notamment en termes de solaire, c'est des initiatives également très coûteuses. Est-ce que aujourd'hui on a les moyens de pouvoir mettre en place beaucoup de centrales solaires qui pourraient naturellement permettre au pays de tourner. Alors, sachant que la nuit, on n'aura pas de soleil, est-ce qu'on a mis en place des systèmes qui permettraient d'avoir suffisamment de batteries qui devraient stocker autant d'énergie qu'il faut, par exemple, pour les localités? Qu'à cela ne tienne, oui, on devra naturellement commencer à réfléchir à cela. Comment avoir d'autres sources d'énergie pour pouvoir pallier aux menaces naturellement du Nigeria parce qu'on n'a pas payé de nous couper, du Ghana qui ne nous fournirait pas parce que en interne il y aura peut-être de manque. Donc nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Voilà les questions que nous pouvons nous poser. On a le Mono, il y a un projet deux nations d'Adrala qui s'est arrêté en cours de route. On ne sait pas si les collaborations ou les relations entre les deux États aujourd'hui permet justement de reprendre ce projet puisque personne n'en parle. Et le soleil, on a quelques initiatives, la centrale solaire de Blita, je crois. Il devrait avoir une centrale à temps annoncé à Sokodé, d'autres également. Est-ce que ces initiatives sont assez suffisantes pour nous permettre aujourd'hui de nous mettre à l'abri de coupures et des menaces des États amis? Je ne crois pas. Donc, il va falloir que le nouveau ministre en charge de l'énergie et notamment son ministre délégué, qui était un ancien directeur de la CET, donc, essaye de nous situer sur, naturellement, quels seraient les moyens à mettre en œuvre pour juguler ces crises-là. On connaît déjà, ça fait deux fois cette année. Qui sait jusqu'à la fin d'année si on n'aura pas une autre crise énergétique? Sinon, ça fait trop.
D'accord.
Pour un pays dans une même année. On en a eu en début d'année très longtemps. Il a fallu que tout le monde crie soit on interpelle les autorités pour qu'on puisse commencer par sortir, par expliquer. Et cette explication, les histoires de rationnement ont duré jusqu'au mois de juin-juillet. Là, on a eu, la CET a sorti à peine un communiqué pour dire on met fin au rationnement. Ça n'a pas fait deux semaines, on retombe dans les travers de délestage, Et il a fallu un autre communiqué pour dire non, nous allons maintenant véritablement délester de nouveau sur au moins 2 semaines. Ben, je pense que pour un État, ça fait un peu trop. Il faut quand même qu'on réfléchisse à d'autres solutions assez viables.
D'accord. Alors, les hôpitaux ont aussi besoin de l'électricité hein, pour faire fonctionner les équipements ou le matériel. Alors, oui, mais Gosson, vous vous intéressez hein, par rapport à votre journal Liberté. Ce matin, vous vous intéressez au secteur de la santé. Vous écrivez « 7 heures de la santé au Togo, paramédicaux sevrés de la prime spéciale, mutation d'agents, concours national oublié et 3 points de suspension. Hein. La santé est malade. » Alors, finalement, de quoi notre santé est-elle malade?
Bon, normalement, dire que la santé est malade, ça doit faire tiquer.
C'est tout à fait.
Mais je me rends compte que d'abord, on commence par l'organisation des concours au Togo. Si j'ai bonne mémoire, c'est en juillet qu'un concours de recrutement des professeurs a eu lieu. Et le mois d'août, le mois dernier, les résultats ont été proclamés. Ça veut dire qu'en moins de 2 mois, tout est calé. Ça, c'est le secteur de l'éducation. Mais dans la santé, on a passé un concours national sur toute l'étendue du territoire en juin ou mai 2023. Plus de 12 mois sont passés, mais aucun résultat. Or, en ces temps-ci, on nous rebat les oreilles avec le renforcement des plateaux techniques, la multiplication et la rénovation de nouvelles structures sanitaires. Mais on a beau investir dans le matériel, c'est d'abord le capital humain dont ces hôpitaux ont, et ces centres de santé ont besoin pour fonctionner. Tiens, dans certains centres de soins, normalement, il revient aux médecins de procéder à des actes chirurgicaux, à certains actes chirurgicaux et obstétriques ou des actes obstétricaux. Mais faute de médecins, c'est des paramédicaux, des techniciens supérieurs de santé qui s'adonnent à ces actes-là.
Qui normalement ne sont pas habilités à le faire.
Mais ils peuvent le faire sous la supervision des médecins. Soit ils le faisaient si bien, mais se sont rendus compte que attendez, le travail que fournissent les médecins, c'est le même que nous fournissons. Mais pourquoi eux peuvent avoir droit à des primes et pas nous? Et donc, c'est en mai qu'ils ont débrayé, ils ont fait une opération zéro bistouri pour ne plus procéder à ces actes. Et face à la menace, le ministère a tout fait de prendre un arrêté pour leur allouer mensuellement une prime spéciale dont je tais le montant. C'est dans l'article. Mais c'est quand même surprenant que dans certains centres de soins, des directeurs se permettent de refuser ces primes-là à ces opérateurs paramédicaux. Comment?
Dans d'autres. Et c'est quoi la raison donnée?
Justement, avec cet article-là, le ministère aura l'obligation, puisqu'on l'a illustré avec l'image du nouveau ministre,
oui, le professeur Tim Dari,
contre qui nous n'avons rien, il lui revient d'aller voir pourquoi, par exemple, dans d'autres centres, les directeurs qui ont vu des paramédicaux suivre le mouvement, ils ont muté ceux-ci vers d'autres services avec des noms de service. C'est ahurissant. Et pourtant, quand on passe le concours pour entrer en formation, normalement, dans le passé, on finit la formation, on attend 6 mois, et après, on vous déploie dans vos centres respectifs. Mais depuis, avant d'intégrer un centre de formation sanitaire, tu passes un concours, tu finis. Maintenant, tu vas attendre qu'on lance encore un concours national de recrutement auquel tu vas participer, et si tu réussis, on te déploie. Voilà que ça fait plus d'un an qu'on a lancé le concours. Pas de résultat. Et on ne communique pas sur les raisons qui peuvent justifier cet état de choses. Dans le même temps, les hôpitaux s'ouvrent, les populations, au bénéfice desquelles ces centres de soins sont en train d'être construits ou rénovés, attendent. Parce que pas de personnel, comment est-ce que vous pouvez prétendre à des services de qualité? Donc, c'est l'information que nous avons reçue. On tait le reste. C'est assez croustillant. Et à tous ceux qui veulent courir, s'abonner à Liberté, ils liront la quintessence.
Et justement, ils liront la quintessence alors du sujet. Alors, Uriel, c'est vrai que professeur Tine Daré vient d'arriver. Par rapport à tout ce que le confrère Gosson vient d'évoquer comme problème, ça veut dire qu'il a beaucoup de pain sur la planche, hein?
Non, pourquoi on va le dire? Il a eu des prédécesseurs. Ce n'est pas lui qui va se sacrifier sur la croix, à mon avis. Hein. Vous savez.
Mais il a obligation de résultat.
Non, il a obligation de résultat. Il a un cahier de charges et nous avons tous lu le programme d'action du gouvernement la dernière fois. Je félicite Godson pour nous avoir révélé beaucoup de choses. Je vois qu'il a pris du temps. Vous savez, c'est un secteur scientifique.
Tout à fait.
Pour même maîtriser certains concepts que depuis sa naissance, il n'a même pas prononcé. Donc, félicitations à toi. Vous savez, moi, mon point de vue, il est clair. Si on peut passer aux états généraux de nos centres de santé, ça serait bien. Le secteur de la santé, c'est un secteur à part entière. C'est la vie des humains.
C'est vital.
Ouais. C'est vital, comme il est dit. C'est la vie des humains. Ça, on peut blaguer avec tout. Même on peut blaguer avec la construction des routes. On peut tout faire. Mais on ne peut pas blaguer avec la santé. Une petite erreur en chirurgie entraîne la mort. Tel qu'il a dit, les gens nous ont confié qu'ils ont peur d'amener leurs patients au niveau des centres hospitaliers universitaires. Comme quoi, parce que des fois, on laisse les opérations aux étudiants. Et il crée des décès. Ce n'est pas différent de ce que Godson vient de développer. En matière de santé, on ne peut pas s'amuser. On peut même s'amuser au niveau de l'éducation, hein, parce que ça peut, l'enfant peut redoubler, reprendre. L'enseignant, on peut le rappeler à l'ordre, il va se, va la perfectionner et revenir. Mais au niveau de la santé, quand on rate, on crée un décès. Ça, il n'y a rien à faire. Et ce décès, quand on parle de créer un décès, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent, hein. Ça peut créer le décès sur un ministre. Ça peut créer le décès sur un député. Sur n'importe qui. Parce que n'ayant pas vite su le malaise pour qu'on t'évacue, on dit bon, on l'amène en attendant au CHU Sylvanus Olympio. Mais s'il arrive qu'il n'y a pas une ressource humaine compétente, il va mourir. Donc nous tous, nous sommes soumis à ce danger. Nous avons... Ça dit qu'aujourd'hui, quand vous entendez, on dit... professeur tel, en médecine, en ceci, professeur, presque tout ce que vous retrouvez à la tête des départements au niveau des centres de santé, là, c'est des professeurs titulaires. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est tellement grave que, bon, le chef de l'État, la dernière fois, même aujourd'hui, j'ai écouté, par le biais du ministre de l'Accès universel aux soins, et que les consignes ont été données, qu'aucun Togolais ne doit parcourir plus de 5 km hein, pour retrouver un centre de santé. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais quand on retrouve le centre de santé, est-ce qu'on a la ressource compétente? On peut même avoir du matériel. Les scanners, on peut tout avoir. Mais quand on n'a pas la personne indiquée pour manipuler cet appareil et soigner le patient, donc, l'État aurait investi inutilement dans l'achat du matériel pouvant soigner les Togolais. Donc, c'est bien clair que pour ces secteurs-là, on peut le faire autrement. Exactement. Heureusement qu'il y a plusieurs ministres qui gèrent ces secteurs, ce n'est même pas un seul. Donc, il y a plusieurs professeurs titulaires qui sont là-bas. Donc, ils n'ont qu'à nous prouver leurs compétences pour sauver des vies.
D'accord. Oui. Jacques?
Vous savez, Pascal, s'il y a un secteur dans ce pays... où il y a plus de fuites de cerveau, c'est le secteur de la santé. C'est la santé. Aujourd'hui, quand vous prenez le secteur de la santé, ceux qui sont formés dans certaines spécialités, on ne les retrouve plus. Les gens sont obligés aujourd'hui de travailler dans les cliniques privées et d'aller vers également le public. Et lorsqu'il est occupé, par exemple, vers la clinique privée, quelqu'un vient au niveau du public, on dit, bon, il est allé de l'autre côté, il faut attendre qu'il revienne. Donc, c'est un secteur, vraiment, il faut que le gouvernement s'y mette. Il faudrait aujourd'hui que... C'est vrai qu'entre-temps, le Saint-Fort, depuis un certain temps, je crois qu'ils se sont fatigués, parce que ils avaient demandé la proclamation des résultats de ce concours. Je me rappelle avec Tcholenyanou, sur les médias, il tambourinait tout le temps.
Mais en tant que syndicat, est-ce qu'il doit être fatigué?
Non, je voulais parler de ce concours.
D'accord.
Parce que, entre temps, il avait dit qu'ils ont écrit au Premier ministre, le Premier ministre avait promis, le ministre également de la Santé, mais finalement, on ne sait plus. Mais Pascal, c'est un secteur un peu compliqué et difficile. Et ce que Godson a relevé, c'est vrai. Vous savez, quand vous avez des amis, des frères qui sont dans ce secteur-là, ils vous livrent des informations. Et c'est ahurissant. C'est vraiment difficile et compliqué. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous prenez le secteur par exemple, surtout ceux qui attrapent souvent le cancer. Pascal, si vous avez le cancer aujourd'hui au Togo, vous ne savez pas si vous allez trépasser. Parce que c'est compliqué de trouver les spécialistes pour pouvoir vous soigner. Vous voyez? Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait... C'est vrai que les autres avaient entre-temps réclamé qu'on puisse aller aux états généraux de la santé. Il faudrait la volonté avant d'y s'y mettre. C'est vrai que Godson parlait tout à l'heure du déploiement du matériel que l'État est en train de faire au niveau des hôpitaux. C'est une très bonne chose de déployer ce matériel. Mais lorsque vous n'avez pas, par exemple, un personnel qui puisse prendre soin de ce matériel, vous serez en train de faire un investissement pour rien. Mais il faut reconnaître que ce qui est important pour nous aujourd'hui, s'il n'y avait pas effectivement ces cliniques privées, on aura des problèmes dans le pays. Et vous allez voir que la plupart de nos compatriotes, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les moyens, ne se font pas soigner dans nos hôpitaux ici. Ils prennent les avions, ils s'en vont soigner, ils reviennent dans le pays. Donc je crois que ça, c'est également un autre problème. C'est parce que ceux qui sont censés nous aider à pouvoir nous soigner dans nos hôpitaux, ne le font pas. Ils ont les moyens, ils s'en vont. Et finalement, c'est nous pauvres qui restons. Et finalement, on subit effectivement la règle.
D'accord.
Donc, je crois que la fuite effectivement des cerveaux, au niveau effectivement de la médecine, crée aujourd'hui un problème. Et l'autre aspect également, Pascal, qu'il ne faut pas négliger, vous savez, quand vous avez vos enfants qui optent pour faire la médecine ici à l'université de Lomé, mais c'est la croix et la bannière. C'est également un autre aspect également qu'il faut revoir. Vous allez entendre les gens vous dire que si vous voulez faire la médecine au niveau de l'université de Lomé, il faut avoir des bras longs. Et que les pauvres n'arrivent pas à former leurs enfants ici. Donc je crois que c'est des aspects quand même qu'il faut revoir. Nous avons effectivement la capacité, il y a certains qui ont des enfants qui sont intelligents, qui peuvent faire par exemple la médecine ici, mais faute effectivement de certaines choses, ils n'arrivent pas à le faire. Donc c'est des choses qu'il faut également revoir. Revoir surtout la fuite des cerveaux.
D'accord.
Ça c'est un problème.
Ok, et disais, finalement c'est un secteur qui a assez de défis. Hein.
La santé?
Oui.
Mais naturellement. Mais naturellement, déjà même qu'on en parle, mais le problème de ça, c'est comme on dit, si tout, imaginez un jour, tous les Togolais sont tombés malades. Est-ce qu'il y aura encore un pays? Est-ce que le pays va fonctionner? Est-ce qu'il y aura encore... on va parler encore de l'économie, on va parler de politique, est-ce qu'on va parler encore de quelque chose d'éducation? Non. Donc le secteur de santé est un secteur très sensible et par les plus sensibles d'ailleurs, si vous voulez. Et donc, même au-delà de la sécurité, je pense que si on n'a pas de santé, on n'aura pas de sécurité. Et donc, c'est pour ça que, quand on parle du secteur de la santé, pour ceux qui ont une fois, soit eux-mêmes fait les hôpitaux publics, ou envoyé un proche ou un membre de la famille dans ces hôpitaux, ou ont une fois fait 3-4 jours dans ces hôpitaux, comme garde malade ou tout ce que vous voulez, vous connaissez les défis qu'on a. Et donc, on a... tout le temps dit ici qu'il faut naturellement repenser le système sanitaire du Togo. C'est vrai qu'on veut faire l'assurance maladie universelle, ce qui est une bonne chose comme ambition, mais la base c'est d'abord d'assainir le secteur d'abord et qu'il y ait suffisamment, comme Jacques le disait, suffisamment de personnel qualifié dans les hôpitaux et qu'on relève le plateau technique avant d'aller à la couverture. Avant d'aller à la couverture
universelle.
Donc, aujourd'hui, le défi qu'on a, c'est d'abord de moderniser nos hôpitaux. Quand on va, par exemple, il y a quelques années, moi, on était à l'hôpital préfectoral de Tchamba. Le plus huppé dans cet hôpital préfectoral, à l'époque, je ne sais pas pour aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un assistant médical. Le plus huppé à l'époque. C'est un assistant médical qui est le plus qualifié dans cet hôpital en 2013 ou 2014, qui couvre la préfecture. Donc, imaginez, sous lui, où sont les médecins après, où sont les spécialistes, et tout cela pour un hôpital préfectoral. Aujourd'hui, le défi va se poser encore dans d'autres préfectures. Peut-être que pour Tchamba, ça a été réglé au fil des années. Mais qu'en est-il pour d'autres, pour les hôpitaux préfectoraux que nous avons? Et on va parler ensuite des hôpitaux régionaux. Ensuite, même des CHU que nous avons, il y a toujours des défis. On a parlé de la maternité, de la pédiatrie, généralement on en parle, du CHU Sylvanus Olympio. C'est vrai que ça fait polémique il y a quelques semaines avec un reportage d'un autre média, mais les défis du système sanitaire, nous les connaissons. Donc, maintenant qu'on a un autre professeur encore qui est nommé à la tête de ce département et qui est notre ministre pour la couverture universelle, Dieu merci, on va voir comment est-ce que les deux ministres vont travailler ensemble pour qu'on ait déjà une base de ce que le système sanitaire du Togo est assez solide et peut sauver des vies humaines, peut permettre aux Togolais d'avoir une bonne santé. Et après, bon, voilà, de l'autre côté, quelqu'un qui travaille pour la couverture universelle, on va voir parce que tout ça va avancer. Et Jacques parlait d'un sujet très capital, c'est la fuite des cerveaux, surtout au niveau des médecins. C'est connu, c'est dit que dans la région parisienne seulement, on a plus de médecins togolais qui soignent des Français là-bas que de médecins au Togo. Donc, si nos médecins préfèrent aller travailler en France, aller travailler au Bénin, aller travailler dans d'autres pays de la sous-région, que de travailler ici pour soigner leurs compatriotes,
ça veut dire qu'il y a un problème.
Et surtout, quand on fait un concours, au lieu de proclamer les résultats et donner du travail aux gens, on ne proclame pas les résultats et que des gens sont lassés, fatigués, ben, la fuite des cerveaux, ça s'ensuit.
D'accord. Alors, nous allons clôturer ce débat avec ce sujet très rapidement. C'est un sujet politique, bien sûr.
C'est fini pour la santé.
Justement, c'est fini pour la santé.
Par rapport à un aspect très capital, d'ailleurs, quand Jacques parlait du recrutement des étudiants au niveau de la médecine. Je voulais juste préciser que lorsque vous n'avez pas la moyenne, le niveau requis pour être admis au département de la médecine, on peut tout faire pour vous affecter là-bas. Vous allez démissionner, vous n'allez pas continuer. Après les trois premiers mois, vous-même, volontairement, vous allez abandonner parce que je connais beaucoup de cas.
Ok, d'accord. Alors, je voudrais qu'on évoque alors ce sujet de l'ANC où le ministre Gomado qui a été exclu alors du parti, on s'y attendait et parce que on a vu quand même l'ascension que le ministre avait eu quand il a accepté même d'ailleurs d'être alors dans le nouveau gouvernement. Alors, Jacques, j'espère quand même que vous n'avez pas été étonné.
Non, vous savez, ça c'est normal quand vous êtes dans un parti politique. Il y a ce qu'on appelle les règles du parti. Et lorsque vous arrivez à enfreindre à une loi ou bien une règle, mais vous vous attendez à une sanction. Donc c'est ce qui est arrivé à M. Gomado. Donc je crois que je serai par exemple à la place de l'ANC que je ferai autrement. C'est-à-dire que, mais vous savez, j'ai écouté un peu le président Jean-Pierre Fabre qui disait que ce n'est pas lui seul qui prend des décisions, mais si j'étais par exemple à la place de Fabre, j'aurais fait autrement par rapport à Gomado. Parce que quoi qu'on dise, quand vous prenez par exemple le maire Gomado, il est de Baie. Et qui dit Baie, nous connaissons un peu ce que c'est que Baie. C'est vrai que certains me diront que ce n'est pas tout Baie qui est d'accord avec M. Gomado. Mais quelque part, il faut reconnaître que Gomado également draine également un bagage derrière lui qui peut mobiliser. Donc, c'est la politique. Il a choisi, on l'a exclu. Donc, je crois que comme que dirait un ancien ministre quelque part, bon, on l'a chassé de sa hutte, il va aller maintenant faire son trou quelque part.
D'accord. Alors, disais, est-ce que vous avez compris le fait que déjà, le samedi, au moment où l'ANC faisait sortir ce communiqué d'exclusion alors du ministre Gomado, c'est lui qui prononçait le discours plutôt à Dino Cousin.
Ben oui, il est membre du gouvernement, donc sa patronne ou son patron l'a envoyé les représenter à Dino Cousin, ça c'est donc naturel. un travail de ministre. Donc, ses patrons décident, il n'a pas le choix. Maintenant, comme Jacques le dit, c'est comme un parti politique, c'est comme une maison, c'est comme une organisation, c'est comme un pays. C'est, si vous, il y a des règles, il y a des règlements, le règlement intérieur du parti politique et qui prévoit un certain nombre de situations et des décisions à prendre. Je pense qu'en acceptant d'entrer au gouvernement, M. Gomado l'a fait en connaissance de cause, parce qu'il savait naturellement qu'un monsieur de son niveau, de son rang, ne peut pas dire qu'il ne maîtrise pas les règles du parti. Et donc, c'est pour ça qu'on avait dit à l'époque que on ne sait pas s'il a été consulté en tant que membre de l'ANC ou s'il avait été consulté à titre personnel. Et le parti semble donner réponse déjà à ce questionnement de ce que c'était une initiative solitaire de M. Gomado. Et donc, s'il a accepté, c'est en connaissance de cause, il savait que son parti n'acceptait pas, n'accepterait jamais un membre au gouvernement parce que le parti n'a pas été consulté en tant que formation politique pour faire partir du gouvernement. Et donc, à partir de ce moment, il savait qu'il allait être exclu. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne s'est jamais prononcé sur le sujet. Et donc, je me dis que, pour respecter les règles d'un parti politique, c'est dans l'ordre normal des choses. Maintenant, pour d'autres considérations, je crois que c'est des politiques et ils pourront toujours discuter après. Peut-être qu'après sa sortie du gouvernement, ils pourraient revenir à la maison.
D'accord. Alors, Gosson, l'exclusion du ministre Gomado de l'ANC, c'est dans l'ordre normal des choses, hein?
Bon, moi je dois dire que l'ANC n'a pas pris cette décision au hasard pour avoir échangé avec quelqu'un de la localité. Quand on suit le parcours du nouveau ministre, c'est comme c'était prévisible
qu'il allait être dans le gouvernement actuel.
Mais ce n'est pas tant ça qui m'étonne, mais c'est les sorties du ministre du travail. C'est une cuisine interne à l'ANC. Dans en quoi il est électrocuté ou branché?
Mais c'est parce que la question lui a été posée. Pas le confrère, bien sûr, sur le plateau.
Retiens qu'il n'est pas obligé d'y répondre et de donner son avis.
Le confrère n'était pas obligé de poser aussi la question.
Bien sûr, comme tu es en train de me le poser. Parfois, je dis que je préfère ne pas répondre.
Oui, c'est vrai que vous titrez hein, sur le sujet, l'ANC rompt avec un géant du parti, échec et chasse à l'homme. C'est bien ça?
Oui, c'est ça exactement. Je pense que les autres ont déjà tout dit. Moi, je reste toujours dans l'objectivité. Vous savez, je ne suis pas pour le fait que s'il doit avoir consultation, qu'on consulte un parti politique. Mais on consulte des profils, on consulte des têtes. Si on consulte le parti politique et le parti envoie un cancre notoire pour gérer un département ministériel, vous ne voyez pas que ça n'a aucun sens?
Non,
Uriel, attendez.
L'UFC a été consulté en tant que
Non. Ça, c'est votre point de vue. D'une façon scientifique, je serai à la place de celui qui consulte pour former le gouvernement. Je vois le profil de Didier. Je sais que Didier peut jouer tel rôle ici. Je le consulte. Mais si je consulte le parti de Didier, et Didier m'envoie un cancre notoire pour gérer le département pour lequel je l'ai consulté, vous ne trouvez pas que ça ne répond à aucune règle? Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, si Jean-Pierre Fabre, par rapport
je pense que ça fait débat.
Oui, par rapport aux antécédents, ils ont déjà refusé de siéger à l'Assemblée nationale et tout. C'est pas avec un seul ministre qu'ils vont accepter ça. Là, on comprend. Ils ont opté ne pas s'associer. Donc ça, on comprend. D'accord. Sinon, okay. Dans la séance,
Merci beaucoup. Ça fait débat.
C'est comme on dit que on va nommer Dossé secrétaire permanent de l'AES et il ne consulte pas son patron. On le nomme. Vous croyez que ça fait mal?
C'est différent.
Non, c'est pas différent. C'est la même chose.
Mais je pense que nous allons maintenant donner la parole aussi à nos auditeurs qui s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. C'est sur le 90 86 35 35 ou le 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur qui se signale. Allô?
Allô, bonjour, bonjour.
Oui, bonjour Didier.
Bonjour le plateau.
Comment vous allez?
Ça va bien.
D'accord, allez-y.
Moi je voulais quand même intervenir pour le Dakar parce que je n'ai pas suivi l'émission depuis le début. Mm. Mais je voulais poser une question à Muriel. Vous trouvez que cette façon de faire par le chef de l'État, lui qui est le garant de la nation togolaise, garant de la cohésion de la nation, lui-même s'attelle à diviser les partis par la rue, par cette façon de faire. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est lui plutôt qui doit garantir la cohésion des partis, des nations. Mais lui-même va aller dénicher les gens comme ça. Est-ce que vous allez apprendre ça à vos enfants de faire donner à la maison? Je voudrais bien que le journaliste vous donne le temps que vous voulez pour que vous répondiez à la question de votre collègue qui posait la question si l'AOS vient prendre Doucet sans consulter le président, est-ce que cela est d'accord? Je voudrais bien que vous donne tout le temps, mais c'est tout le temps de l'émission pour que vous puissiez nous répondre à cette question. Merci beaucoup.
D'accord, merci beaucoup Didier pour cette intervention 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, Papa Sardiné, bonjour.
Oui, comment Papa Sardiné, vous... je suis
oui, oui, comment vous allez?
Oh, ça va.
Allez-y.
Pour M. Gomado, nous savons tout ce qu'il allait être exclu de son parti. Puisque le parti n'était pas le parti n'était pas averti. Hein? Donc, ce n'est pas à l'avis du parti qu'ils ont que l'on, ce qui veut dire qu'on l'a repêché. Donc, on devait l'exclure du parti. Je crois que c'est ça. Hein? Bonne journée.
D'accord. Bonne journée à toi aussi, Papa Sardiné. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Ayao depuis l'entreprise de l'Union.
Ayao depuis l'entreprise de l'Union, allez-y.
Ouais, je voulais, par rapport au dernier sujet, et par rapport le maire Gomaro, ce qu'il a fait, ça on peut appeler que c'est une trahison, parce que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Et mon papa qui est là-bas, il dit que c'est pour ça, profit. Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Ce que le président fait, c'est pas bon. Il doit consulter son parti d'abord. Parce que quelqu'un est dans un autre parti. Avant de l'appeler, il faut que son parti soit d'accord avant de l'appeler. Il faut que les journalistes nous disent, ils nous apprennent des bonnes choses. Parce que moi qui vous appelle, je suis un enfant. J'ai 28 ans. Parce que celui qui a ce qu'il est en train de dire, je ne suis pas sûr qu'il peut dire ça à ses enfants. Bonjour.
Ayao, merci alors, beaucoup. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Alors,
oui, bonjour, je vous écoute. Il semble qu'il n'a pas de retour.
Alors,
90, 86, 35, 35. Allô? Allô, bonjour. Allô? Non, Michel, je pense qu'on peut se passer à l'heure de cet auditeur. Et on reçoit un autre auditeur, 90, 86, 35, 35. C'est 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô? Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour. Allô.
Bonjour.
Oui, comment vous allez?
Ah bah, et chez vous?
Ça va aussi, votre nom c'est
Monsieur Aboubakar depuis Moukapou.
Ah, Monsieur Aboubakar.
Ouais, comment ça va?
Ça va, par la grâce de Dieu, allez-y.
Vous savez, dans la vie, c'est comme ça, hein. Un adage a dit, « Kadagbe le Dieu du Mekoua, Otonebe le roi de Bosoka ». Monsieur Gomado voulait rentrer au gouvernement. Sinon, quand on l'a averti, il va voir son parti. Et son parti va prendre la décision. Donc, laissez les chantages de la merci.
Ce n'est pas du chantage, hein, c'est chacun qui analyse selon sa manière. 90, 91, 90, pardon, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo. D'accord, allez-y.
Oui, j'ai écouté Uriel dire que si on consultait l'ANC, on peut envoyer un cancre. C'est vrai, un parti au pouvoir, c'est lui qui allait venir le chercher. Hein. Je ne sais pas si Jean-Pierre Farry veut traiter de cancre. Quelqu'un va chercher un cancre, envoyer au gouvernement. C'est trop. Mais on n'a qu'à respecter aussi les leaders des autres partis politiques. Si Scrick cherche les autres... qui traite à mal les leaders des partis politiques, il n'a qu'à faire économie de ces régimes. Bon, allons tout de go sur ce que les gens analysent. Oui, Gomado, c'est vrai. Il a constaté que son père, depuis longtemps, les premiers quartiers de Lomé n'ont connu aucun développement. Il a creusé des caniveaux pleins d'eau. Peut-être on a proposé que si tu es avec nous, tu vas développer ton quartier. Ah, il peut se cacher pour aller au gouvernement. Mais Boumado va sortir un jour pour nous dire aussi que seuls les indécis ne changent pas, comme l'avait dit l'autre, celui qui lisait les rapports de CFT. Est-ce que vous voyez? Donc, faisons économie des leaders, parce que les gens savent. On l'a proposé là-bas que si on nommait le ministre des Affaires étrangères, il dit que c'est pas la même chose. Comment dites-vous que lui, si on peut le nommer, on peut consulter son leader, mais ici, si on veut nommer quelqu'un, on ne peut pas consulter son leader. Mais on ne comprend plus rien. Donc, faites économie de tous les leaders du pays.
D'accord.
Et que tout ça, on va se respecter.
Oh, ok, merci beaucoup, M. Nyamavo, pour votre intervention 90-86-35-35. Allô?
Mais bonjour.
Bonjour, Basile, comment vous allez?
Ah, je vais togolaisement bien.
D'accord. Dieu merci que vous allez togolaisement bien.
Oui, oui.
Allez-y.
Non, on ne va pas consulter des gens individuellement ni isolément. Ça, c'est une manière de semer la zizanie entre les gens qui étaient ensemble hier. Et avec ça, ils ne seront plus ensemble. Cela permettra à quelqu'un de rester éternellement au pouvoir. C'est le principe de diviser pour régner. Monsieur Boumado, moi, je ne sais pas, je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il a fait dans Hébert, mais vous savez que depuis quand on veut faire une manifestation, il refuse qu'on ne va pas faire ça à Hébert. Ça, c'est le souci pour qu'on le prenne au gouvernement, parce qu'on ne veut pas les manifestations. Ils sont là, ils ont même peur de leur ombre. Donc, manifestation ne vous donne pas le temps. Si quelqu'un est maire là, il arrive à dire que non, vous n'allez pas manifester ici, mais déjà il est vu d'un bon oeil. Qu'est-ce que vous devez savoir? Sinon, allez le voir individuellement et en aparté comme ça, et c'est pour semer la cisanie entre les gens. C'est tout. Il n'y a pas un autre mot pour désigner ça.
D'accord. Merci beaucoup, Basile, pour ton intervention. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, c'est Monsieur Mauto.
C'est M. Mauto. Allez-y.
Salut le plateau.
Le plateau, si vous savez.
D'accord, M. Boumado. Mon ami, aujourd'hui, il est parti à côté du fait de la mise. Ce que M. Boumado a fait est très grave. C'est que lorsque vous êtes dans un parti, hein, vous devez épouser la vidéo du parti. Boumado, c'est un trait quoi. Il croit que peut-être qu'il va derrière la personne de Berg derrière lui. Il se trompe. M. Boumado ne connaît pas Winnie. Il y a comme un autre, on va le citer, après on va le jeter. Merci, bonne émission.
Allez, bonne suite à toi aussi, M. Mauto, pour ton intervention. Oh, nous allons recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez? Allô? Allô, bonjour. Bonne
suite à toi aussi, M. Mauto, pour ton intervention. Oui, allô?
Oui, allez-y.
Oui, bonjour.
Oui.
Très bien.
Allô?
Allô, je vais très bien. Oui, bonjour.
Oui, votre nom, et allez-y.
Oui, bonjour. D'accord, je voudrais en venir sur le cas de M. Boumado.
Oui, bonjour.
Oui, je suis Lorson Gaëtan.
D'accord, je voudrais en venir sur le cas de
M.
Boumado. Oui,
allez-y, mon cher ami.
Alors, pour ne pas traîner, M. Boumado, pour son cas, je vais dire tout simplement que ce sont des épisodes sans fin. Des épisodes sans fin. Oui, ce sont des épisodes sans fin que nous sommes en train de vivre au Togo. Alors, ne serait-ce qu'il ne faut plus aller sur ce débat, parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve, parce qu'on a tant vu plein de partis politiques qui sont en même temps au parti, au pouvoir. Moi, je me dis souvent qu'il n'y a pas d'opposant au Togo. Bon, bref, c'est ça un peu. Pour le cas des démunis, il y a un confrère journaliste qui avait évoqué un cas des démunis concernant les orphelins pour les kits scolaires. Quand tu n'es pas apte à donner, alors tu te fais, c'est mieux parce que les orphelins, ce n'est pas seulement les orphelinats qui peuvent le faire. Tout le monde peut le faire et puis ça, c'est une contribution ouverte à tout le monde. Donc, si moi j'ai des orphelins chez moi dans mon quartier, c'est pas parce que d'autres à un orphelinat de l'autre côté, que je vais aller là-bas, alors que j'ai quelque chose à donner à cet enfant diminué. Donc, ça aussi, c'est un point. Et puis, pour aller à la pierre sacrée, puisque je suis l'ensemble ici d'Anéron, la pierre sacrée, on ne peut pas l'exposer, tout comme fait dans, disons, dans une vitrée, soi-disant, vitrée. Non, la pièce, il faut s'informer de quelle pièce s'agit. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on le réserve? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut exposer? Il faut cultiver, il faut faire la culture, il faut aller au fond avant de faire ce genre de mission, parce que la pièce, c'est une seule pièce qui change de couleur. Merci beaucoup et bonne émission.
Alors, merci beaucoup, M. Lawson, pour votre intervention. Je pense que M. Lawson, c'est le dernier auditeur pour le compte de cette émission. Nous allons revenir en plateau et nous allons toujours faire comprendre à nos amis auditeurs, auditrices, que chacun a sa manière d'analyser aussi les sujets, puisque c'est un débat citoyen que nous faisons. Et ce débat citoyen n'a pas besoin même d'ailleurs d'attaquer qui que ce soit, parce que c'est son point de vue. C'est en quelque sorte des débats d'idées. Vous apportez votre idée et si je vois quand même que ce n'est pas ce qui me sied, j'apporte le contraire de ce que vous dites. Et là, je pense que c'est en cela qu'on peut construire même d'ailleurs un pays ou une société démocratique. Alors, chers confrères, nous avons écouté aussi les uns les autres. Nous avons parlé de beaucoup de sujets, hein, beaucoup de sujets, mais le cas Gomado a tellement suscité de débats. Des gens sont revenus alors sur ce sujet du ministre Gomado. Alors, ça se comprend parce que nous aimons bien la politique. La politique nous intéresse beaucoup au Togo. Oui, Uriel, qu'est-ce que vous avez à dire alors par rapport à ces réactions?
Oui, je commence par l'auditeur Nyamavo. Je pense qu'il doit bien nous écouter. Ici, c'est des esprits élevés. On n'a pas qu'à attribuer le terme cancre-notoire à un militant de l'ANC. Hein. Nous étions en train de développer nos opinions et j'ai bien dit, il peut réécouter l'émission, j'ai bien dit. Alors, si on consulte un parti et le parti là délègue un cancre notoire. Alors, il n'a qu'à retenir aussi que un parti de l'opposition, quel que soit le pays, peut choisir de saboter l'action du pouvoir en place. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à faire. Je veux saboter tes actions, je t'envoie celui que je veux, quitte à lui de te malmener. Il est déjà nommé ministre. Bon, ce n'est pas aussi facile de le démettre de ses fonctions. Donc, il faut qu'on réfléchisse au-delà. Qu'on aille au-delà de ce qu'on voit. Ce n'est pas seulement le fait d'envoyer quelqu'un un nom. Un parti de l'opposition peut saboter les actions du pouvoir en place. Ça, il n'a qu'à retenir. Ça existe bel et bien. Donc, on n'a pas à qualifier un membre de l'ANC. Et quand il dit que c'était, si c'était à un leader du parti au pouvoir qu'on avait dit cela, non. Il faut qu'il nous suive avant de réagir. Nous développons nos opinions et nous avons le niveau de les dire d'une façon objective. Bon, l'autre qui posait Didier posait une question pour laquelle il avait espéré qu'on me donne beaucoup de temps. Non, on avait déjà répondu. J'avais déjà dit à Jacques que en réalité, on ne peut pas comparer un parti politique, le choix du parti politique, la décision du parti politique à l'exemple qu'il avait donné. Je lui avais répondu en disant que c'est carrément différent. Voilà. S'il veut comparer entre l'avis du président de la République sur un poste à octroyer à Robert Dussé, j'ai dit non, c'est pas la même chose. Parce qu'ici, il s'agit de la décision d'un parti politique, les partis politiques. Et d'ailleurs, même, est-ce que c'est inscrit même dans les tests, dans leur statut au niveau de l'opposition? Est-ce qu'ils ont ça dans leur statut? Il faut aller chercher, voir. Que si on veut nommer un membre de notre parti, il faut nous consulter d'abord. Ça aussi, c'est à chercher à voir.
D'accord. Voilà. Jacques?
Non, je crois que vous avez fait une très bonne analyse quand vous comparez les opinions des uns et les autres. J'ai aimé ce que vous avez dit. Ce qu'il faut retenir, Pascal, vous savez, c'est comme une fille que vous rencontrez une première fois, vous voulez la courtiser. Vous savez, certains seront peut-être attirés par la taille de la fille, d'autres peut-être par le sourire de la fille, d'autres aussi par les dents de la fille. Bon, ça dépend. C'est-à-dire que chacun sait comment faire pour ne serait-ce qu'avoir le cœur de la fille. La finalité, c'est comment faire pour conquérir la fille. Et si c'est par le sourire, si c'est par les cheveux, si c'est par... Bon, c'est-à-dire que chacun a sa façon de pouvoir faire pour avoir effectivement la fille en question. Donc, que les auditeurs souffrent que souvent quand on dit des choses, que certains ne seront pas d'accord, d'autres seront d'accord. C'est là, en fait, c'est la démocratie. Et vous savez, au Togo, nous a, comme vous l'avez si bien dit, vous avez tout ce qu'on a fait depuis, on a développé des choses, mais c'est au finish, en deux minutes, on a parlé de M. Gomado et c'est ça qui a pris.
Qui a intéressé.
Didi.
Oui, oui, naturellement. Vous savez, notre pays, ça reste notre pays. Et tant que, vous ne soyez pas étonnés, tant qu'on n'aura pas réussi à régler nos différents politiques, ben, soyez pas étonnés que ça passionne plus d'un. Moi, je suis politologue de formation et je sais naturellement que tout ce qu'on a eu à dire pratiquement 5 minutes.
Oui.
Ben, si on parle de politique en 2-3 minutes, tout le monde va revenir là-dessus et c'est pas assez étonnant. Donc je pense que cela révèle que notre pays a encore des défis sur le plan politique à relever. Donc à chacun de prendre ses responsabilités en ce qui le concerne. Si on veut faire des choses, moi, bon, j'ai pas été consulté, hein, ni à titre individuel, ni au titre de la presse.
Je croyais que tu allais parler d'une autre partie.
Non, j'ai pas de parti. Mon parti, c'est la presse pour le moment et le Togo. Et donc, pour un gouvernement de transition, voilà, moi, l'idéal, je m'attendais à ce que, oui, naturellement, on a des membres de l'opposition, mais si j'avais été, on avait demandé mon avis, oui, on pourrait prendre M. Gomado en tant que membre de l'ANC, et je pense que le chef de l'État a tous les moyens de travailler avec même l'ANC, même le DMP, DMK, tout ce qu'il y a dedans, pour que au moins on puisse, pour une fois, puisqu'on parle de transition, travailler ensemble. Je pense que c'était dans cet esprit qu'on a eu à former ce gouvernement. Juste que le cas Gomado retient beaucoup de passion parce que la consultation n'est pas allée dans le sens où les gens l'auraient voulu. Et c'est juste ce qui fait l'objet de ce débat. Donc, à partir de ce moment-là, c'est déjà fait. Il revient maintenant au ministre Gomado de nous prouver ce dont il est capable en tant que ministre chargé de l'aménagement et de développement des territoires. Donc, il est, à mon sens, le patron des maires, hein, désormais.
Oui, bien sûr.
Oui, femmes, il est le patron des maires. Donc, même patron de son patron.
De son patron.
C'est à lui maintenant de prouver tout ce dont il est capable à son poste en tant que maintenant citoyen togolais qui n'a plus de chapelle politique, de travailler pour que véritablement ce qui est dit développement des territoires soit une réalité au Togo.
D'accord, merci Didier. Gosson.
Oui, je suis juste désolé que si c'est vraiment le cas, c'est triste. Désolé que notre président soit peut-être mal conseillé. La dernière fois, nous avons tous appris que le maire du Golfe 4 a adressé un courrier sollicitant l'appui du président de la République. Le président de la République est d'un parti. Le maire aussi est d'un autre parti. Ça ne l'a pas empêché d'adresser un courrier sollicitant l'appui du président. Donc, partant de ça, je serais président de la République que c'est moi-même qui signerais le courrier sollicitant de l'ANC qui nous permet de nommer telle personne au sein du gouvernement juste pour jauger le degré d'ouverture de ce parti-là. Même s'il a des choses contre le mien, l'honnêteté commande que je lui adresse le courrier, quitte à ce qu'il me dise non, et après que je passe vers l'individu pour le débaucher.
D'accord.
Mais ne pas le faire, c'est vicié, c'est pas bien.
D'accord. Est-ce que ce n'est pas aussi fait sciemment? Et puisque ça donne aujourd'hui, ça suscite des débats. Et je pense quand même que celui qui a former le gouvernement ne l'a pas fait aussi d'une manière anodine. Ça a été fait sciemment. Alors, oui, je veux bien parler de Uriel. Uriel, merci d'être passé dans cette émission.
Pascal, Jacques, vous voulez, merci. Non, vous savez, je voulais inviter nos confrères de la TVT à plus de visibilité quand notre chef d'État se déplace.
Oui.
Parce que nous avons vu, ils ont piqué l'image des réseaux sociaux. par rapport à la visite du chef de l'État en Chine, c'est pas tellement professionnel.
D'accord, ok.
Ils envoient des équipes.
Merci Jacques, merci Didier, merci Gosson, merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.